Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
Avec ces incendies à répétition et gravissimes, c'est devenu l'un des visages de l'été que vous avez vu sur les chaînes de télé. C'est le commandant Brocardi, Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers qui est avec nous. Bonjour commandant.
Bonjour, mais avant tout je préfère dire que ce sont l'ensemble des sapeurs-pompiers de France qui sont représentés au travers de mon image.
Bien sûr.
C'est extrêmement important parce que voilà, celles et ceux qui combattent au quotidien, voilà, on ne les voit pas souvent, mais c'est un travail de fourmi exceptionnel qu'ils font au quotidien.
Justement, où est-ce qu'on en est du côté du méga-feu de Landiras là? Ça y est, il est fixé.
Le feu est bien fixé. On est toujours sur un travail de fourmi, de reconnaissance avec l'ensemble des points chauds qui doivent être toujours sous vigilance parce que ce feu est relativement surprenant. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu un deuxième volet de Landiras. Les renforts aujourd'hui de nos collègues polynésiens, notamment, il faut le souligner, de La Réunion, de Mayotte, nous permettent aujourd'hui d'avoir un peu plus d'oxygène dans le renfort du personnel sur place. Donc, ce qui permet, on va dire, de pouvoir souffler pour ceux qui étaient en première ligne.
Mais combien de temps ça va durer, le travail sur place?
Ah non, mais le travail, il est encore conséquent. Je rappelle que dans le premier volet du feu de l'Enduras et de la Teste de Buch, le contrôleur général Marc Vermeulen avait précisé que c'était un feu qui ne pouvait pas se déclarer éteint avant septembre-octobre. Donc là, vous imaginez bien que si on n'a pas des pluies qui tombent de manière assez régulière, que l'on ne fait pas toujours la surveillance, on va dire, active et en même temps du travail de lisière et de noyage, on aura du mal à pouvoir essayer d'en arriver au bout.
Ça reste ce qu'on appelle le feu zombie, quoi.
Exactement.
C'est ça, c'est sous la tourbe.
À tout moment,
c'est-à-dire
il peut ressortir.
C'est jusqu'à 80 cm dans le sol, il y a des braises et ça peut remonter.
Exactement, c'est un feu aussi étrange que ce qu'il est traître, parce qu'à tout moment, il peut repartir comme il est reparti pour ce deuxième épisode. Donc, à partir de là, il faut être extrêmement vigilant.
Mmh. Etienne ?
Moi, j'avais une question. Je voudrais savoir, la parole des pompiers, des pompiers qui ont affaire avec le feu, est-ce que leur parole est écoutée dans la gestion des forêts? Parce que j'ai entendu que en France, 93% des forêts sont privées. Mmh. Est-ce que vous avez vraiment le pouvoir de dire, dans cette forêt, il faudrait un espace de tant de kilomètres, planter des feuillus et arrêter de planter des pins, etc. Oui. Est-ce que votre parole est écoutée?
Bien sûr qu'elle a été écoutée. Elle a été écoutée notamment pour jusqu'à présent dans la région sud-méditerranée dans les années 80-90 où les sapeurs-pompiers ont été mis autour de la table avec l'ONF, avec des services préfectoraux pour permettre justement...
Les propriétaires privés sont obligés d'obéir.
Et aussi, mais il y a quand même une parcelle aussi énormément publique dans ces domaines-là. Donc ça veut dire que il faut voir une chose, c'est que tous les éléments qu'on a apportés dans le seul but de pouvoir protéger les concitoyens et surtout l'environnement ont été bénéfiques jusqu'à présent, puisque 90% aujourd'hui des incendies par la stratégie, on va dire, de l'emploi des moyens conséquents sur des feux naissants, permettaient de laisser 90% des incendies sur une enveloppe inférieure à 5 hectares. Donc ça veut dire que globalement, avec la stratégie d'aménagement des territoires et des forêts, ça permettait de résoudre un bon nombre de problèmes et éviter toute catastrophe.
Oui. De mais là, ça n'a pas été le cas. Là,
aujourd'hui, c'est vrai qu'on était affaire à deux choses. Des événements météorologiques assez importants, exceptionnels, il faut le dire, parce que quelque part, quand vous avez du vent, une sécheresse qui a complètement imprégné dans tous les végétaux et en plus dans les sous-sols, et ça a été expliqué à l'instant, on est sur un sujet aujourd'hui où tout départ de feu avec un fort vent est amené à pouvoir se propager très vite. Donc, la monstruosité du feu, notamment sur ce deuxième volet, faisait qu'à un moment donné, nous étions en rupture capacitaire par rapport à cela, parce que, justement, il y avait ces soucis-là et derrière on était amputé de la première vague de 40 engins mis hors service du fait de ce premier incendie majeur sur la Gironde et qu'à partir de là on était en déficit de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a un travail à refaire. De toute façon je pense que malheureusement on est encore dans cette culture, on va dire, de l'urgence où fatalité, derrière on prend les décisions une fois que la crise est passée, alors que là on devrait être plutôt dans la culture de la prévention.
Mais justement, parce que le président va réunir tous les acteurs après ces incendies, de quoi ont besoin les pompiers aujourd'hui?
Franchement,
de plus de matériel.
Les chefs l'ont reçu, c'est l'essentiel. Après, ça sera à eux de pouvoir et ils le feront très bien parce qu'aujourd'hui ils sont à la manœuvre pour pouvoir renforcer les autres départements. Et on tient les saluts aussi parce qu'ils ont pris des responsabilités de commandant, ils ont pris des responsabilités de manager. Et à partir de là, ils ont été à la tête et à l'ouvrage pour permettre les renforts. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que l'on souhaite et ce que l'on demande, c'est effectivement plus de bras. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que ça y est, c'est encore un système qui est en crise.
Il y a un syndicat de pompiers qui dit qu'on a besoin de 14 000 pompiers supplémentaires sur le terrain.
Je vais vous dire très simplement, et c'est pour ça que j'ai apporté des documents. Vous savez, on a fait des rapports sur Mission Ambition Volontariat qui datent quasiment de 2011. Donc c'est pas rien, c'était il y a plus de 10 ans. Où derrière, à l'intérieur, on écrivait tout ce qui n'allait pas dans le système du volontariat parce que 80% aujourd'hui de notre ossature permettait aujourd'hui de répondre à toutes les sollicitations parce qu'on est issu du tissu du volontariat. 2019, on fait un rapport sur justement les sapeurs-pompiers volontaires en Europe. Ouais. Prenez un exemple concret. En Pologne, 38 millions d'habitants, 260 000 sapeurs-pompiers volontaires. En France, 67 millions, 197 000 sapeurs-pompiers volontaires. La Fédération nationale aujourd'hui porte l'ambition de porter jusqu'à 250 000 sapeurs-pompiers volontaires contre 197 000 aujourd'hui. Et en termes de réaction immédiate, et je dis bien de réaction immédiate pour les sapeurs-pompiers professionnels, tous ceux qui sont sur liste d'aptitude, et titulaires de l'examen et du concours, doivent intégrer impérativement l'ISDIS pour venir renforcer cette force qui est l'épine dorsale des professionnels.
Oui, mais justement, il y a une crise des vocations, Eric, commandant Brocardi, Eric.
Mais justement, c'est pas.
Comment est-ce qu'on pousse à devenir un pompier volontaire?
Aujourd'hui, c'est effectivement, on a un sujet qui est extrêmement important, c'est comment être dans la capacité à pouvoir mieux s'ouvrir aux autres pour mieux faire comprendre nos missions et montrer que nous avons tous les atouts aujourd'hui pour être une activité qui correspond au code de tout le monde. Les codes, c'est quoi? C'est la diversité. Déjà d'une part, ouais, qu'elle soit opérationnelle ou dans le reste, mais surtout opérationnelle. Aujourd'hui, on parle du feu de forêt. Dans 24 heures, on va parler des inondations. Dans 24 heures. Donc, une aversion au changement qui est très rapide, une facilité d'adaptation. Comme aujourd'hui, vous changez d'application, vous changez de chaîne très rapidement. Donc, c'est la capacité à s'adapter. Le deuxième point, c'est effectivement, aujourd'hui, les notions d'égalité et de diversité chez nous, elles sont prégnantes et elles sont inculquées dans nos valeurs pour pouvoir permettre d'ouvrir à tout le monde la possibilité de devenir pompier volontaire. Mais aujourd'hui, ça ne saute pas à l'esprit parce qu'on a une mentalité et des yeux qui ont changé sur notre activité. Et
je peux poser une question, Alain?
Bah, t'es là pour ça, vas-y.
Commandant, en fait, j'ai entendu des pompiers, il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'hier soir, via une chaîne de médias, enfin d'infos. Moi, ce qui m'inquiète, c'est sur quels critères vous recrutez des pompiers volontaires. Parce que je vais vous dire, vous savez ce qu'il disait le mec? Il disait, ah non mais moi ça m'excite de voir le feu, c'est l'adrénaline et tout. Et moi, je l'écoutais, je disais, c'est flippant.
Il y a un fil psychologique ou pas?
Bien sûr qu'il y a un fil psychologique.
Il faisait peur, le pompier.
Fatalité, il y en a, on l'a vu pendant l'été, ouais, malheureusement.
Il était des pyromanes.
Sapeur forestier était devenu... il avait trompé tout le monde, sa famille et son autorité directe. Donc, fatalité, à un moment donné, il peut y avoir des gens qui nous bloussent carrément, il faut le dire. Mais au regard de ça, bien entendu, qu'il y a toujours un entretien qui permet à un moment donné d'échanger sur les volontés de cette personne-là et de, quand bien même, essayer de détecter. Il y a des visites médicales aussi qui sont prévues. Aujourd'hui, de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que dans n'importe quelle situation, que vous voulez rentrer dans un club de foot ou autre, il y a toujours quelque part un entretien, qu'il soit médical ou qu'il soit juste de consulter les parents, voir comment va l'enfant et discuter avec l'enfant. Oui. Je veux dire, c'est pas nouveau. Donc ça se passe dans toutes les corporations, ça se passe dans toutes les activités, qu'elles soient associatives ou qu'elles soient aussi du monde de salariat, pour permettre justement de mieux connaître les gens. Parfois, il y en a qui passent les mailles du filet.
Celui-là, il n'est pas net.
Est-ce que vous avez simplement quantifié le nombre d'effectifs dont vous auriez besoin aujourd'hui?
Aujourd'hui, pour déjà répondre de manière raisonnable à toutes les interventions, soit plus de 4,7 millions d'interventions par an, hein, une intervention toutes les 7 secondes, 250 000 sapeurs-pompiers volontaires, c'est déjà une bonne chose déjà pour continuer à consolider le maillage territorial au travers des 6300 casernes de secours.
Il vous en manque 53 000.
Donc il nous en manque 63 000 d'ailleurs, effectivement. Le sujet, c'est quoi? C'est que derrière, quand on trouve ces pompiers volontaires, on arrive à réarmer les centres de secours des petits villages, parce qu'on parle depuis le début de la saison que des zones rurales. On ne parle pas des grandes villes. Les grandes villes, elles sont toujours au turbin pour pouvoir permettre la distribution des secours. Et là, aujourd'hui, c'est ce mal aussi qui est en difficulté. C'est cette difficulté qu'on a où, quand on est sur des incendies avec des déploiements de 2000 personnes, on est aussi dans les casernes en train de trouver dans les fonds de tiroir les personnels professionnels et volontaires pour pouvoir réarmer. Aujourd'hui, on est à flux tendu et parfois même, vous avez des engins qui partent en première intention pour porter vite secours, mais qui sont pas armés réglementairement et qui derrière poussent automatiquement un véhicule armé réglementairement pour pouvoir venir en secours. Parce qu'à un moment donné, c'est un problème aussi de sécurité, de l'engagement des sapeurs-pompiers. Donc, ce qu'on invente et ce qu'on évoque dans tous ces documents depuis de nombreuses années, c'est effectivement tout ce qu'on avait projeté. Je parle aussi de cette déficit.
Donc ça veut dire que tous les rapports existent et qu'on n'a pas bougé.
Mais
en fait,
aujourd'hui, les rapports existent et il y en a une pile.
Faites-les voir.
Ils existent à l'intérieur. Je dirais même
donc
une chose.
Donc ça, ce sont tous les documents qui depuis 10 ans sont donnés par les pompiers.
Exactement, créés par la fédération.
Tous les rapports sur vos besoins avec des propositions.
Et vous allez voir que même dans un dossier de presse. Et vous allez voir que même dans un dossier de presse qui vous est dédié, on évoque justement la rupture capacitaire. Et le fait qu'à un moment donné, il faut renforcer.
Donc
et
ça fait 11 ans,
ça
11
fait
ans,
déjà 2 ans.
Oui, mais 11 ans que les pompiers
la
demandent.
Faute, la faute, elle est. Je veux le dire. La faute, elle est partagée. elle est déjà partagée. C'est vrai qu'on a du mal à vendre des fois, à dire attention, le sujet, il faudrait quand même arriver là-dessus, parce qu'on sait qu'on va être en rupture. Ça intéresse pas une... Ça intéresse pas immédiatement. On s'y intéresse. Et ça, c'est commun à tout le monde. Je jette la faute à personne. Mais c'est commun à tout le monde de s'intéresser quand les crises, elles arrivent. Là, le sujet quand même, c'est de dire qu'effectivement, on l'avait évoqué, on l'avait écrit et qu'il fallait prendre des mesures. Quand on parle de situation d'interpellation des sapeurs-pompiers de France au regard de la directive européenne, c'est qu'elle pose une épée de Damoclès sur la tête de l'ensemble du volontariat en Europe.
D'accord.
Pas uniquement en France. Et si le volontariat s'effondre, bah demain, vous n'avez plus de secours devant chez vous. Donc c'est une certitude. On va simplement.
Le système
voir...
est le même. Excusez-moi, parce que en France, il y a des pompiers volontaires, il y a des pompiers professionnels.
Et c'est important. Hein, pour le
bien sûr, à Marseille, c'est l'ossature essentielle, etc. Voilà.
C'est des.
C'est le même système ailleurs en Europe.
Exactement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter que sur du volontariat à partir du moment où vous n'avez pas d'ossature professionnelle. C'est extrêmement important parce que c'est une base.
Ben oui.
C'est de là qu'en fait part toute la ramification pour que derrière il y ait ce maillage territorial qui est aussi toutes ces actions qui sont liées en termes opérationnels en réaction immédiate. C'est extrêmement important et c'est pour ça que tous ceux qui sont détenteurs aujourd'hui du concours de sapeurs-pompiers professionnels doivent impérativement intégrer les SDIS. On peut pas laisser sur la touche, ce n'est pas possible parce
c'est
qu'aujourd'hui
quoi, les
cette
SDIS, porte. Excusez-moi, mais
excusez-moi, oui, le service départemental d'incendie et de secours.
Ah d'accord.
C'est en fait notre maison en fait qui nous permet justement de pouvoir avoir de c'est la maison qui nous finance en fait.
D'accord.
Donc globalement
et c'est
pas
financé
au niveau de
par une taxe sur les assurances, d'où la proposition de doubler la taxe.
Exactement.
Sur les assurances. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un ministère de la sécurité civile ou un secrétariat d'État?
Parce qu'aujourd'hui il le
ça
faut.
Peut être utile. Ah, il le faut.
Il le faut. Ça a été évoqué plusieurs fois. Ça a été porté justement lors des candidats à la présidentielle lorsqu'on les a reçus le 10 mars dernier. Pour permettre justement de comprendre quelles étaient leurs ambitions vis-à-vis de la protection civile en son ensemble. Mais bien entendu, aujourd'hui, un ministère de l'urgence est extrêmement important pour régler les problèmes de protection civile et les anticiper surtout. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une crise naturelle. En même temps, vous avez toujours sous-jacent une crise sanitaire. Vous avez des crises technologiques. Et je vous le rappelle aussi qu'il y a eu la Dordogne en plein milieu des feux de forêt qu'il a fallu gérer. Donc, il a fallu être sur tous les plans. Aujourd'hui, il y a aussi d'une manière générale, de manière interministérielle, à pouvoir diluer correctement toutes les informations ou toutes les orientations visant à donner du sens et un bon comportement aux concitoyens.
Mehdi.
Combien ça coûte une caserne complète, ça veut dire matériel plus personnel de pompiers, et pourquoi justement ne pas agrandir ces casernes pour un peu faire de la délocalisation. Une fois vous en avez parlé, c'est-à-dire faire des grands centres justement de pompiers au lieu de petites
casernes.
Alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour faire, parce que je sais que vous avez des budgets coupés, je sais qu'ils vous ont enlevé beaucoup de matériel, j'ai entendu par rapport à tout ce qui s'est passé. De toute façon, c'est toujours quand il y a une catastrophe qu'on dit,
alors,
voilà, ils nous ont coupé tel budget.
Il y a un sujet, le nerf de la guerre à tout le monde.
C'est l'argent.
C'est dans le monde privé, comme le monde du
c'est normal.
Public, c'est l'argent.
Je suis d'accord.
Par contre, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des méthodes et il y a certaines souplesses aussi. Aujourd'hui, à budget constant, on peut déjà travailler sur des curseurs, et notamment tout ce qui est voué au niveau des assurances, parce que les sapeurs-pompiers, on les assimile souvent à tout ce qui est hectare brûlé, mais quand on fait des défenses de points sensibles, on sauve combien de maisons? On n'a pas encore compté le nombre de maisons qu'on a sauvées.
Ouais.
Et quand vous faites le sauvegarde et que vous chiffrez cela, la valeur du sauvé aujourd'hui,
c'est des millions et des millions et des
villages. Et les villages et les services départementaux d'incendie et de secours sont dans la capacité à modéliser ce que l'on a permis de sauver.
C'est ça.
Donc cette valeur-là, il faut bien qu'elle s'attaque quelque part.
D'accord,
et que nous, en tant que sapeurs-pompiers, on en retire des bénéfices.
Bien sûr.
Sinon, demain, on dit ça sert à rien de sauver la maison, parce que sinon, le financement derrière et les assurances nous rétribuent rien. Mmh. Donc effectivement, on demande ce doublement. On demande ce doublement parce qu'il y a une action concrète et réelle. Et les gens le comprendraient.
Mais même, je pense que les assurances préféraient vous donner à vous une sorte de pourcentage que de payer la baraque complète, ce qui est logique. Ouais,
après, la question de la mutualisation aujourd'hui des centres, c'est parce qu'il y a une rupture aussi, on va dire, en termes de captation, et c'est ce que vous avez, évoqué tout à l'heure, d'attractivité.
Ouais, du personnel.
À un moment donné, on a de moins en moins de personnel, il faut remoduler les centres. Mais ça ne peut plus durer. Parce que on le prend encore en exemple, ce sont des petits villages qui prennent en premier les assaillis des crises naturelles. Pardon ?
Combien gagne un pompier quand il commence ?
Un pompier professionnel ?
Ouais.
Oh, il est aux alentours de 1400-1500 euros la première année. C'est ce que je prenais. Voilà, 1375 euros lorsque j'ai commencé en 2000. Voilà, lorsque j'ai commencé en 2000 professionnel.
C'est fini. Et l'indemnisation pour le pompier volontaire, c'est entre 8 8 et 30 euros, 8 voilà, et 12 euros.
C'est plus au niveau, quand vous regardez, c'est à partir de 8 euros et ça monte jusqu'à 10, 11 euros en fonction du grade.
Au moment de l'indemnisation.
L'indemnisation horaire. Voilà.
Merci, Éric Brocardi, de nous avoir aidé à comprendre. Et on voit bien que ça fait 11 ans que toutes les propositions sont sur la table pour arriver à aider les pompiers et à repenser le modèle.